Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est le but le plus important de ma carrière. C'est le seul.
Ils ont semblé considérer Nice comme la troisième roue de leur carrosse. Hein.
Pas favori. On est même les tocards de la finale. On n'est même pas outsider, on est tocard.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Et l'after continue ici à la prison de la santé, débat foot avec Daniel Riolo, avec Manu Petit, avec coach Courbis, avec le directeur de la prison toujours avec nous, Bruno Clément Petreman. On a Abdoulaye toujours là qui est détenu ici à la prison de la santé. On recevra tout à l'heure d'autres détenus pour parler d'autres sujets foot d'ici minuit. On aura une page foot anglais également tout à l'heure, Manu. Je rappelle qu'on est là au gymnase de la prison de la santé. On est venu au contact des auditeurs de l'after ici en détention, et on est ravis d'être là tous ensemble. Bien sûr, le débat était chaud sur l'OM. Roland, tu voulais également réagir à l'arrivée de Vitinha, plus gros transfert de l'histoire du club. Et toi, je sais pas, j'ai l'impression que ça t'a un peu énervé la façon dont ça a été présenté, cette histoire.
Je t'explique déjà deux trois choses sans faire le professeur. Quand par exemple on parle d'un club comme Paris Saint-Germain, d'un club comme l'Olympique de Marseille ou de Lyon, il faut quand même qu'on se mette d'accord sur une chose. Joueur de football, c'est un métier. Joueur de football à Paris Saint-Germain, à l'OM ou à Lyon, c'est un métier totalement différent que dans beaucoup d'autres clubs. Pareil pour les entraîneurs. Tu es entraîneur de ces clubs-là, tu ne fais pas le même métier que dans les autres clubs. Je suis bien placé pour le savoir. Ça n'enlève pas de mérite aux autres clubs. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Et quand, par exemple, je regarde un mercato, je regarde les départs, il n'y en a pratiquement pas qui sont emmerdants. Il y a deux, trois, oui, allez. Mais je regarde les arrivées, mais avec toujours un point d'interrogation, où le joueur qui débarque à l'Olympique de Marseille, on a l'exemple avec Mofi qui a la possibilité, alors il y a peut-être des affaires financières, de signer à l'Olympique de Marseille ou à Nice, mais il a préféré aller à Nice. Chacun ses goûts, mais on peut trouver ça surprenant. Pour ce qui est des arrivées, j'ai regardé les joueurs importants qui sont arrivés, Malinovski, Vitinha et le petit prometteur là,
Unai.
Donc ça, on va attendre de voir si ces joueurs-là, qui sont trois bons joueurs, vont s'imposer et s'intégrer rapidement à l'Olympique de Marseille pour apporter un plus. On va le découvrir au moment où on se parle, on n'en sait rien.
Toi, tu veux dire c'est des paris, quoi. C'est voilà. Ce que tu veux dire.
Non, c'est tout simplement des constats. On ne peut pas savoir si aujourd'hui ils vont s'intégrer dans des clubs aussi importants et aussi compliqués. Mais si tu comprends pas, je vais pas faire un tête à tête avec toi.
Non, mais attends, j'espère. Ils sont arrivés.
Malinovski, il est déjà titulaire. Monsieur le directeur. Mais déjà, toi, tu es suffisamment compétent pour savoir que Malinovski, c'est une réussite à l'Olympique de Marseille. Je n'ai pas ces compétences-là. Moi, je préfère attendre quelques semaines. Donc, je termine. Excuse-moi, Gilbert. En ce qui concerne maintenant la situation, c'est que je regarde toujours les commentaires et beaucoup de choses m'énervent. Donc, j'ai mon caractère, moi aussi, avec mes qualités et mes défauts. Bon. Quand, par exemple, je vois que dans une première page de l'équipe, ce journal sans rival. Donc évidemment que eux ils sont compétents, ce journal de l'équipe, ils sont seuls. S'ils vont aux Jeux Olympiques, ils sont sûrs d'avoir la médaille d'or. Donc en ce qui concerne ce journal-là, hier je vois marqué Vitinha, un achat de Fada.
Un achat de Fada, ça devait être dans la Provence, hein, ça.
Non.
Le Fada, il y avait dans l'équipe.
Écoute,
je l'ai pas vu, ce titre.
Si j'ai été un petit peu vexé, parce que ce terme-là, je le connais depuis tout petit.
Un prix de Fada.
Moi qui suis un cancre sur le plan de la scolarité. J'ai quitté l'école à 15 ans. Je vais quand même pas donner une leçon de comptabilité à celui qui a écrit ça. Je lui expliquerai quand même que un transfert, ce qui est intéressant, c'est l'âge du joueur, la durée du joueur et le prix. Si on ne prend uniquement que le prix du transfert, évidemment, tu peux faire des comparaisons. Je te donne un exemple. Celui qui a été pour moi le transfert le plus élevé et en même temps le plus catastrophique, c'est Strootman. Il est arrivé avec un contrat de 5 ans. Il a 700 000, mais pour l'équipe, le salaire, on s'en fout, c'est pas de l'argent le salaire. J'ai même lu des fois que tel ou tel joueur, il était gratuit. On confond libre et gratuit. Parce qu'il est en fin de contrat, le mec, il est gratuit. Mais quand il se prend une prime à la signature qui remplace son transfert, j'appelle pas ça être gratuit. Donc pour en revenir à Vitinha, et je terminerai là-dessus, Vitinha, il a 22 ans. Il a signé 4 ans et demi. Tu prends les 25 millions plus les 7 millions qui font les 32 de ce chiffre scandaleux dans la période que nous traversons, un 32 millions de transferts. Mais je l'entends puisque c'est le record qui a été battu avec, paraît-il, le président en difficulté qui va jouer sa place de président. Mais s'il va jouer sa place de président avec un joueur de 22 ans qui a signé pendant 4 ans et demi et qui a, disons, comme salaire un quart du salaire qu'avait Strootman, le record de l'exagération et de la connerie, c'est Strootman, ce n'est pas Vitinha. Vitinha, je patiente pour l'attendre.
Donc tu veux dire que c'est une bonne idée de l'avoir pris?
Oui.
Ah, bah, très bien.
Oui, mais.
Je voulais savoir.
Une bonne idée, mon chéri, avec le grand point d'interrogation qu'il a signé à Marseille. Il a pas signé à Andoum, il a signé à Marseille.
Bah, le point d'interrogation de Marseille. C'est exactement comme au PSG. Tu sais le nombre de joueurs qui viennent au PSG et qui ont l'impression qu'ils perdent leurs pieds, on leur coupe les pieds quand ils arrivent au centre d'entraînement.
Ah, ben bah, moi, je te parle de
l'Olympique. Là, t'as tous les milieux de terrain, quand ils arrivent au PSG, hop, on leur enlève les pieds.
Manu,
exactement. Oui,
ouais, on leur change.
D'accord, ben voilà. D'accord avec Roland.
Complètement d'accord avec Roland.
Exagéré la façon dont ça a été présenté.
Non, il a complètement d'accord. Et d'ailleurs, il connaît parfaitement justement la logique financière qui règne dans le milieu du sport. Et on ne peut pas s'attarder simplement à un chiffre sur un transfert. Il y a aussi, je suis complètement d'accord, la durée du contrat. La marge aussi de progression,
l'âge, le salaire,
les moi j'arrive pas à comprendre ce qui les a gênés en fait. T'arrives à comprendre Gilbert ce qui les a gênés?
C'est un record. On prend ça comme un record de Fada. Eh ben Fada, tu les toi Fada, c'est tout.
Monsieur le directeur.
Non, on s'en fout un peu. Ouais, quoi,
moi, record, je suis record, de l'OM.
Ce qu'on veut c'est qu'il soit bon quoi.
S'il vous plaît.
Bah, oui, là au moins on est d'accord là-dessus.
Laissez la parole au Tolly, on est chez lui.
Ouais, exactement. J'ai eu un peu peur parce que j'ai trouvé Roland Courbis trop prudent dans son début d'intervention parce que moi je trouve que il y a déjà des preuves de la qualité des nouvelles recrues. Enfin, Malinovski, il fait 3 matchs, il met 2 poteaux déjà, des coups francs d'un autre âge. Unani, bah, on a vu le but d'un autre, le but qu'il a mis hier contre Nantes. Quoi. Le gars, il rentre, il joue 10 minutes, ça fait 3 jours qu'il est au club, il a fait un entraînement,
et
il marque déjà un but incroyable sur une passe décisive de Klose qu'on annonçait. Attendez, je finis. Une passe décisive de Klose qu'on annonçait à l'Atlético, mais on constate qu'il est resté à l'OM. Voilà. Et quant à Vitinha, vous dites dans un transfert, ce qui compte c'est l'âge, l'argent évidemment, etc. Je pense que ce qui compte aussi c'est le profil. Et je pense que ce gars-là, il a le profil parfait pour permettre à Alexis Sanchez de bien finir sa saison. Parce qu'on voit bien qu'il est utilisé. On voit bien qu'il est utilisé d'une façon quand même qui lui correspond pas, même s'il sort encore le jeu puisque il remarque des buts en plus, Alexis Sanchez. Mais il risque de se crever. Là, avec le profil dont on dit qui est celui de Vitinha, jeune, 22 ans, enfin. Le même, alors c'était pas le même journal parce que c'était La Provence, mais La Provence disait que c'est un type qui lâchait rien et qui était sur le terrain comme un chien.
Donc je pense
qu'à Sanchez, il va faire beaucoup de bien.
Pour appuyer ce que vous dites, dans la difficulté qu'il peut y avoir à signer dans les clubs dont a parlé Roland tout à l'heure, les éléments qu'on peut mettre en avant et qui peuvent jouer en faveur de l'arrivée d'un joueur, c'est déjà le contexte dans lequel il évolue. Et là, l'équipe, elle tourne très bien. Le sentiment que tout le monde est à sa place entre le président, l'entraîneur qui tient parfaitement son vestiaire et le groupe. Donc je pense que quand un joueur arrive à l'OM aujourd'hui, il est vraiment dans un contexte parfait pour performer et pas supporter soit une attente inconsidérée, soit il n'est pas mis à sa vraie place. on en a vu plein se planter, que ce pas qu'à Paris, à Marseille. L'histoire,
dernièrement, il y a Suarez, ils se sont trompés, ils ont dû confondre avec l'autre.
Exactement. Donc, mais tu sais, ils se sont trompés sans énormes conséquences, puisqu'ils ont même réussi à le reforguer. Oui. Mais comme quoi, les erreurs, ça arrive, mais il se trouve que Longoria arrive soit à pas en faire énormément, ou quand il y en a un petit peu, il arrive à se débarrasser et de toute façon à garder une équipe compétitive. Et Manu a dit un autre truc qui était intéressant, c'est que les profils sont étudiés et effectivement Vitinha semble avoir un profil de joueur généreux, exactement, qui affiche une grande détermination et qui court beaucoup et c'est très important pour Tudor. Donc a priori c'est plutôt
ça convient même parfaitement si on ne peut pas trop savoir Marseille à l'avance aussi, le public.
A priori ce sont quand même des bonnes recrues.
On peut être optimiste, mais voilà. On attend un peu.
Abdoulaye, sur Vitinha, tu veux dire un truc ou...
Non, personnellement ce joueur, moi je le connais pas trop. J'ai vu quelques ralentis sur lui à la télé. Il joue en match de poule à Braga, je crois, avec
la Ligue des Champions.
Ouais. Je pense qu'il a mis quelques buts, mais je ne me suis pas trop intéressé à lui.
Bon, on va conclure là-dessus sur l'OM, les gars, parce qu'il faut qu'on profite quand même de ta présence. La situation de Lyon, là, aujourd'hui, là, tu t'entends dit quoi, toi? Quelle est ton analyse?
Franchement, mon analyse, on est vraiment plus bas que terre, là, on est en dessous de la terre, là. On est vraiment en dessous de la terre. Ça fait 3-4 ans, on est vraiment en dessous de la terre.
Sans me faire l'avocat de Lyon, même s'il y a beaucoup de personnes que j'aime beaucoup dans ce club. Ouais. Donc, ce qui se passe aussi dernièrement, il y a des périodes où il n'y a rien qui va. Donc, sur le match d'hier, tu le fais 10 fois ce match-là, sans enlever les mérites de Brest.
18 tirs.
Tu le gagnes 9 fois sur 10.
C'est
comme ça. Là aussi, il y a 2-3 joueurs qui sont arrivés, qui ont quand même été choisis avec des profils très intéressants. Il y a 3-4 joueurs qui sont partis. Ben, c'est bien pour eux qu'ils puissent aller jouer dans un autre club où ils pourront peut-être s'imposer. Mais l'effectif de Lyon, je dis pas ça pour te faire plaisir, je le trouve pas mal du tout. Et se mettre dans la tête que la saison n'est pas terminée pour le championnat,
mais
pratiquement.
Mais pourquoi il n'est pas mal du tout l'effectif de Lyon, Roland?
Non, sur le papier,
où est-ce qu'il est bon l'effectif de Lyon?
Avec les 2-3 qui sont arrivés, je trouve que cet effectif, il est pas mal du tout. C'est tout.
Abdoulaye.
Il n'a pas tort sur le papier. Sur le papier, franchement, on a une bonne équipe.
Tu peux me le dire, le papier, parce que j'ai l'impression que c'est le papier.
Sur le papier, on est.
Il y a qui?
On a une très très bonne équipe.
Dis-moi les joueurs, s'il te plaît.
On va lui expliquer quand même.
Dis-moi les joueurs.
Tu sais qu'on progresse à tout âge, ça peut lui arriver.
En ce qui concerne
le gardien, déjà, on est d'accord que c'est un bon gardien?
Attends, mais tu me demandes si je suis d'accord.
Ah, alors vas-y. À Lopez, on est d'accord.
Je pense qu'il y a à Lens un meilleur gardien.
Non, je pense pas.
On dit pas que c'est le meilleur de Ligue 1, mais enfin, il fait partie des bons.
Vous me dites c'est un bon gardien, j'essaie de regarder ce qu'il y a autour.
Oui,
en fait. Je vous dis, il est top 5 des gardiens en Ligue 1, ok, c'est pas le meilleur.
Actuellement, même celui avec de l'OM, les je préfère. Avec
donc l'OM, ils sont un meilleur gardien. Lens, ils ont un meilleur gardien. Donc déjà, ça fait deux équipes déjà. Bon,
Abdoulaye, vas-y.
Actuellement, avec les résultats qu'on a, avec tout ce qui se passe dans le club en interne. Tout ce qui se passe, c'est une logique que tout le monde est en baisse. Mais sinon...
dites-moi les joueurs.
Sur le papier, l'effectif, il est bien, mais c'est juste là. Il y a chaque équipe a sa période.
Non, mais attendez. Arrêtez avec l'effectif sur le papier. Dites-moi qui il y a.
Alors, on continue.
Tolisso, il est cramé. Tolisso, il est cramé. Le Penant, il a 15 ans et ils l'ont sorti des U15 pour qu'il joue.
Tu as pris ma place.
Après, il y a qui? Dites-moi, il y a qui? Cacré, ça fait des années que j'entends que ça va être un futur crack.
Il faut partir.
Il est tendre.
Il veut que je lui explique.
Il fait 3 dribbles, on a l'impression qu'il est en bas de l'immeuble et puis après il sait pourquoi faire du ballon. Il y a qui encore? Lacazette, il est fatigué. Il est fatigué. Ils ont voulu faire le recrutement de l'ADN lyonnais. Bon, c'est parti en fumée, ça tient pas. Après, il y a qui? Dembélé, il pense juste à la prime quand il va se barrer. La tête, elle est plus au club. Dites-moi où sont les bons joueurs.
Attends, mais il veut que je lui explique et il s'explique à lui-même.
Dites-moi les bons joueurs. Dites-moi au moins 4 bons joueurs. L'équipe, elle est 10e au classement, mais il n'y a que des bons joueurs.
Non, laisse-moi quand même.
Les bons joueurs, ils sont 10e.
Laisse-moi quand même une petite chance.
C'est bizarre.
En ce qui concerne le duo d'arrière-centraux. Lovren, Loukeba, pour moi, c'est un des meilleurs duos d'arrière-centraux de notre championnat.
Exactement. Et c'est bien pour ça qu'on a fait partir Malo Gusto aussi à Chelsea.
Dans le pire des cas, ça sera cinquième. Tout ce que je vais te dire, c'est un
Lyon, ils vont faire cinquième.
C'est un effectif qui, normalement, aurait dû ou devrait terminer cinquième. Je continue.
Avec un entraîneur, alors.
Je continue.
Pour les faire jouer, alors.
Ben oui, alors, évidemment, mais toi, si on s'occupe de l'entraîneur, laisse-moi terminer l'effectif. Tagliafico, côté gauche, ça te va? Donc,
champion du monde, champion du monde.
Dans la façon dont joue Lyon, pour moi, il apporte peu. Mais si tu veux, je le mets dans les bons.
Allez, mais champion du monde.
Malo Gusto, qui peut se partager le boulot avec celui
qui est parti.
Avec celui. Non,
il joue Malo Gusto.
C'est la fin de saison.
Non, mais attends,
il a juste signé.
Il a joué hier.
Et l'arrière droit, là, qui a 18 ans, que je trouve, moi, même meilleur que Malo Gusto.
Non, je ne l'ai pas vu.
Ah, d'accord. J'attends ta liste des bons joueurs. Parce que Malo Gusto, je ne mets pas de temps déjà.
Tu parles du jeune joueur là.
Non, mais attends, je suis en train de te donner une liste pour terminer cinquième.
Koumbendi.
Voilà.
Oui.
Koumbendi. Ensuite, pour jouer dans.
On va faire des manifs.
Pour jouer dans des rôles de 6-8, pour terminer cinquième. Mendes, Kakere, Le Penang, Tolisso, ça peut aller quand même.
Non.
Ah bon, il ne faut pas terminer cinquième avec ça.
Non, d'accord. Tous les clubs qui sont devant ont à part Clermont, mais les autres ont des joueurs meilleurs.
Allez,
au milieu.
Faut qu'on avance. J'aimerais que Manu donne son avis sur Lyon pour conclure.
Ils sont dixième.
Daniel, s'il te plaît.
Moi, le gros problème en dehors du justement, parce que là, vous êtes en train de d'énumérer tous les joueurs et l'effectif, et tu faisais justement un prolongement sur l'entraîneur. Moi, ce que je trouve qui est vraiment négatif du côté de Lyon, c'est que depuis plusieurs années, on a l'impression qu'il y a une sinistrose qui s'est installée dans ce vestiaire. Alors, j'ai vu qu'ils avaient essayé de changer pas mal de joueurs pour essayer de transformer, mais est-ce que c'est...
Ils voulaient le purger, le vestiaire, tellement ça n'allait pas.
Est-ce que c'est le bon timing aujourd'hui? Est-ce qu'il fallait pas le faire l'été dernier? Et c'est pour ça que je me dis, c'est bien beau de changer des joueurs. Je suis relativement d'accord avec toi, Roland, sur la qualité de certains joueurs, parce que je pense que quelque part, ils sont tous ancrés dans cette sinistrose.
Je t'en trouve pas une vingtaine, je t'en trouve une douzaine capable de terminer.
Pour moi, il est là le problème. Voilà, le problème de Lyon, il est là. C'est qu'il faut changer cette mentalité. Et j'ai l'impression qu'ils ont du mal à le faire. Ça passera peut-être par une spirale de victoire. Et hier, ils ont raté le coach, justement, après avoir gagné un bon match justement en Corse, ils auraient dû enchaîner. Ah, et c'est ça qui va changer la mentalité.
Moi, je pense que problème de Lyon, c'est que ça fait trop d'années qu'il y a des gens qui disent la même chose que vous, qu'ils sont persuadés d'avoir des bons joueurs, alors que justement, l'un des problèmes de Lyon, c'est qu'ils n'ont pas assez de bons joueurs. Et qu'on s'entretient dans cette fausse idée, et que c'est ça qui fait que le vestiaire n'a pas été assez nettoyé.
Non, je suis pas d'accord avec toi.
On se trompe. T'as
des joueurs qui sont passés par des grands clubs.
Ça fait 6 ans qu'on se trompe sur tous les recrutements.
Non, t'as quand même des joueurs qui sont passés par les grands clubs.
Les citer, ils ont pas. Citer pas les bons joueurs.
Bah, la Cazette, attends, il a
pas. Mais la Cazette,
tu parles même. Comment tu veux qu'on les cite? Il y a que toi qui parles.
Tu me parles même de Tolisso.
J'ai essayé de placer.
La
Cazette, il est tout le temps.
C'est à cause de ses
problèmes physiques. Ah bah oui.
Oui, mais faut qu'il enchaîne.
Les jambes, moi aussi, je joue en Ligue 1 alors.
Enfin, tu démontes tellement les joueurs d'une façon assez radicale. Et j'ai l'impression que la patience, c'est quelque chose que tu ne sais pas faire, justement, parce que des joueurs ont besoin, justement, d'enchaîner des bons matchs. Et ça passe également par un changement de mentalité, par les victoires. Le jour où ça va arriver, parce que je pense que ça va arriver, ça ne peut pas rester
si
comme ça indéfiniment.
Mai, sera trop
allez,
tard.
Stop. Merci, monsieur le directeur. Merci de votre accueil et d'être resté avec nous parler un peu foot. Nous, on va continuer à parler Ligue 1 et Paris dans quelques instants. Ici, à la prison de la santé. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois. Et on continue l'after ici à la prison de la santé, after exceptionnel. Nous sommes dans le gymnase de la prison. On est venu ici au contact des auditeurs de l'after incarcérés et qui nous écoutent, quelles que soient les prisons de France. D'ailleurs, on a reçu depuis plusieurs années de nombreux témoignages de détenus qui nous suivent. Et donc, c'est pour ça qu'on est venu avec Daniel Riolo, avec Manu Petit, avec Coach Courbis, voir les auditeurs de l'after. Et on a avec nous, après Abdoulaye tout à l'heure, deux nouveaux invités qui sont là, Ibrahim et Afali. Messieurs, bonsoir.
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 Salut,
merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Vous êtes aussi détenu ici à la santé. Supporter de quel club, vous? Tout à l'heure, on avait PSG, le Lyonnais. Nous, hein. PSG, vous deux
c'est
PSG.
Moi, City. Manchester City. Hein.
Mais je pensais que tu étais supporter d'Arsenal.
Tout à l'heure, tu as dit PSG, il faut savoir.
Ouais, PSG en Ligue 1. Mon club favori, c'est City.
Pourquoi tu portes un maillot dégueulasse alors?
Ah non, après. Là, j'ai cru qu'on parlait
de Ligue 1. Donc là, Ibrahim, il est un maillot d'Arsenal.
Si on parle du championnat anglais, je suis pour Arsenal, il y a City.
D'accord.
Ah, c'est ouais, tout le monde,
Arsenal
en fait.
City.
Vous supportez tout le monde.
Liverpool. Non, Arsenal et City. Ouais. Mais en,
avec Arsenal et City.
En Ligue 1, il y a deux clubs dans le même championnat. Non, t'es un prisonnier, ça.
Moi, là-bas, c'est la Ligue 1, je suis un Français.
Non, puis avec Arsenal et City cette année, il a une chance d'être champion.
Je suis un Français,
champion.
Moi, là-bas, c'est que la Ligue 1, moi. Après, l'Angleterre, c'est un plus.
Ah, ok. Ah.
Tu vois ce que je veux dire?
Donc, c'est Paris avant tout, quoi.
Voilà, Paris avant tout. Je suis un mec du PSG, moi.
Voilà,
un pur parisien.
Voilà,
on se comprend.
Là, on y est, là.
Ouais, dites-moi, les gars, bon, il y a les infos sur Mbappé aujourd'hui, là. Vous êtes confiants pour le Bayern, vous deux, là, les parisiens ou...
Ah, si tu trouves un parisien.
Moi, la vérité, je suis pas confiant. Hier, j'ai regardé Bayern jouer, je suis pas du tout confiant.
Ouais, moi aussi, je suis confiant.
Que ce soit dans le jeu ou même dans l'implication, tout ça, franchement, je trouve qu'on n'y est pas.
Quand tu vois le match du Bayern hier, moi je l'ai vu aussi.
Ça part 4-0, ça joue vite devant.
Ben oui.
Ça n'a rien à voir avec ce qu'on
l'intensité,
voit.
L'intensité, c'est
à
pas
Paris.
La même. Hein.
Rien du tout.
Quand tu vois que le PSG, ils sont bousculés, même sur 10 minutes à la fin contre Montpellier, quand il y a 2-1,
ça reste
déjà
Montpellier.
Ça commence à être très fragile.
Ça reste Montpellier.
Gauche,
Montpellier, c'est faible, faut le dire.
Bah, évidemment.
On regarde le match, Montpellier, si c'est Montpellier qui inquiète Paris.
Montpellier avec tes potes ici, vous entraînez une semaine, vous faites le match. Hein.
Normal. Normal.
Bon. On parlait tout à l'heure du foot en prison. C'est important pour vous, les gars? Vous êtes connectés au foot en permanence
Bien sûr, ici, on est connectés au foot en permanence. De toute façon, en vrai, le foot, c'est une façon de s'évader aussi. Un peu de respirer, tout ça. Parce qu'on est en cellule, on est en prison ici, il ne faut pas oublier. Le foot, ça, voilà, c'est une façon de s'évader. Et voilà.
C'est-à-dire que là, tu es prêt à regarder n'importe quel match?
Quel match.
Vous parlez du Bayern hier, parce qu'il fallait se le regarder quand même, Mayence-Bayern, il faut aimer le foot. Hein.
Ouais,
c'était sympa.
En vrai, de vrai, à la télé, c'est sympa.
Bien, match, ouais. Hein. Il était bien.
Bon, restez avec nous, on va débattre de Paris et du reste ensemble, Ibrahim et Afali. Daniel, tu voulais parler du niveau de la Ligue 1 en comparaison avec ce qu'on voit en ce moment dans les autres championnats européens. Donc on va te laisser développer ton idée et on verra si on est d'accord ou pas.
Ben écoute, Roland, qui est un vieux routier compagnon de l'After, je ne sais pas si un jour il aurait pu parier, lui qui aime bien les pronostics, je ne sais pas si un jour il aurait pu parier et dire un jour, Daniel dira qu'il kiffe la Ligue 1 et qu'il s'amuse quand il regarde des matchs de Ligue 1. On a tellement passé d'années à se lamenter sur notre championnat que moi-même, je crois que jamais j'aurais pu penser...
À juste titre.
À juste titre, évidemment. Nous, c'est toujours à juste titre. Je sais pas. Aujourd'hui, le nombre de fois, je me souviens, où regarder un match de Ligue 1 avec la télécommande à côté, t'étais là, tu pouvais pas te retenir, quoi. Il fallait zapper sur un match anglais, fallait zapper sur un match sur beIN, là où il y a les matchs, beaucoup de matchs de championnat étranger. Évidemment, dès que t'avais un match de première ligue, t'avais immédiatement envie de zapper. Tu t'amusais à voir les jeux des 7 différences. Ben, ça court plus vite, c'est plus beau, c'est plus tout, et tu revenais sur la Ligue 1 et tu tombais en dépression totale. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire c'est mieux que tel championnat. Je pourrais prendre ce risque, mais à l'arrivée, ce sont les résultats en Coupe d'Europe qui disent ça. Et la vérité, après, elle arrive le jeudi soir, et dans les matchs du milieu de semaine, tu vois si réellement tu as progressé. Le seul constat que je peux faire, c'est que vraiment, et encore une fois, je le répète, parce que je m'étonne moi-même, je ne pensais pas à un moment dire que je vais peut-être prendre plus de plaisir sur un match. D'ailleurs, Flo Gautreau a un peu dit ça cette semaine quand il regarde un Lorient-Lens où hier il y avait le
Reims-Lorient hier,
le Reims-Lorient d'hier soir. Quand tu zappais sur un match de Liga ou de Serie A ou partout, tu dis, bah, allez, aujourd'hui dire que un Reims-Lorient t'as pris plus de plaisir que devant un match de Liga, c'est presque prendre un risque qu'on me traite de fou. Mais honnêtement, bah, c'est vrai. Il y a eu un renouvellement des entraîneurs qui a été amorcé il y a quelques années maintenant, mais qui s'est mis petit à petit en place. Bah bien, puisque tu parlais de Reims, l'entraîneur, il se trouve que Walid, notre pote de l'After à Cherchour, était à Reims hier et que ce qu'il avait très envie de faire, c'est d'aller parler à l'entraîneur à la fin du match, justement pour lui demander comment il a changé aussi vite le visage de cette équipe. T'imagines, on est en train de parler de Reims dans l'After, ça nous est jamais arrivé de parler de Reims. On n'en parle jamais, sauf une fois qu'on est allé faire une émission là-bas. Et ben là, on en parle en ce moment. Et Steele, il était là, Juan Garcia. Il est allé lui demander, pourtant, Garcia, on se faisait chier. Et là, avec toi, ça a tout changé. L'équipe, elle n'a pas le même visage. T'as le meilleur buteur du championnat. Il est à Reims. Il est en train de faire une grosse saison quand même.
Bien Arsenal.
Exactement.
Vrai, sans option.
Et le gars te dit, ben moi j'avais les idées, j'étais l'adjoint, j'ai pas pu les mettre en place. Bon, Garcia, on le sait, il avait beaucoup de problèmes perso et tout, il s'est en allé. Il a pris sa place, il a mis immédiatement ses idées en place. L'équipe, elle joue, elle, même au Parc des Princes, elle est venue pour jouer. Mmh. Bon, à Reims, c'est un de plus sur la liste. Mais on a commencé la saison en parlant de Lorient et en disant à quel point Lorient propose un football qui est extrêmement
Lens
attractif.
Lens qui confirme aussi.
Lens confirme, on n'en parle même plus de Lens tellement. C'est, tu vois, c'est maintenant, on le sait. Ouais. Mais parlons plutôt de ceux qui ont très mal débarré, comme Nice. Mmh. Nice, Ramsey. Oh, Ramsey. On pensait qu'il était au fond de la cave, Ramsey, qu'on le reverrait plus jamais. Hier, il fait un gros match, Ramsey. Ramsey, il est en train de redevenir titulaire. Digard, je ne sais pas ce qu'il lui a donné à manger. Mais en tout cas, hier, je ne sais pas si ça va se confirmer. Mais je sentais qu'il commençait à être un petit peu mieux. Bon, bah, il fait un gros match. Il y a une équipe comme Nice. On est en droit de se dire, elle va peut-être se faire une belle deuxième partie de saison. Je sais pas si ce sera suffisant pour remonter aussi au classement. Mais hier, ils sont venus à Lens. Tactiquement, ils ont mis un truc en place. Ils les ont emmerdés vraiment. Ils se sont créés des occasions. Ils ont été très bons. Donc, visage transfiguré parce que entraîneur avec lui aussi des ambitions dans le jeu. Et t'as ça un petit peu partout. Maintenant, la marge, alors qu'avant, c'était l'exception quand t'avais un entraîneur ou deux en Ligue 1 qui avaient des belles idées sur le jeu, t'étais là, tu disais, wow, putain, le gars, d'où il vient? Et là maintenant c'est partout. Et maintenant t'as plus un seul entraîneur
bétonneur. Il y a toujours pas les finances et la même capacité.
On va faire un tour de table.
Alors ça mériterait. Mais comme Gilbert, il veut qu'on aille vite parce que je voulais également parler de ça. Effectivement, ça c'est un autre aspect. Mais je vais juste conclure là-dessus. Attention, l'Espagne et l'Italie, je pense, vont être confrontés à des difficultés financières.
C'est pour ça que Tebas il passe son temps à aligner tout le monde.
Exactement. T'as parfaitement raison, Manu. Je pense que ces championnats-là risque de connaître des difficultés. D'ailleurs, regarde les balances des transferts et tout. Ils ne vendent plus beaucoup de joueurs. Ils ne peuvent plus recruter. Ils sont écrasés. Tout le monde est écrasé par la première ligue. Finalement, en France, on s'en tire pas si mal, même s'il y a pas mal de clubs qui ont des problèmes financiers. Mais je trouve, je sais pas combien de temps ça durera, qu'on pourrait avoir notre mot à dire. Alors, est-ce que c'est dans ce football-là, dans un football réformé, avec des compétitions rénovées? Ça, c'est à voir, parce que il y a énormément d'enjeux qui vont devenir très importants dans les années à venir dans le football. Et la France doit vraiment se mobiliser et bien réfléchir, parce qu'il y a peut-être une carte.
Alors, revenons à la question de départ, à l'affirmation de départ de Daniel. La Ligue 1, c'est presque mieux maintenant, voire mieux que certains championnats européens. Ibrahim, ton avis à toi, t'es d'accord?
Bah, bien sûr, je suis super d'accord avec lui. La Ligue 1, au jour d'aujourd'hui, tout le monde voit qu'elle a évolué et personne peut, bon, faut pas se mentir. La Ligue 1, elle a évolué de fou. Au jour d'aujourd'hui, tu regardes la Ligue 1, comme il a dit, tu apprécies mieux des matchs de Ligue 1 que des matchs de Liga ou de
Italien.
Il y a des matchs de Ligue 1. Il y a deux ans, je t'aurais dit, tiens, faut que tu regardes ça. Tu te dis, putain, c'est quoi? C'est une punition, j'ai fait le con, quoi.
Avant, il y a deux ans, je regardais vraiment. Il y a des matchs que je ne regardais pas. Aujourd'hui,
même les ambiances dans les stades.
Tu
vois,
du tableau, tu peux les regarder.
Il y a une équipe, par exemple, qui te plaît, là, où tu te dis, tiens, ça, tiens, il joue, je vais regarder.
Là, tout.
Lens, en
moi. Lens, voilà, j'avais dit Lens.
Ouais. Ça fait deux ans,
Lens. Afali, Lens, t'aimes bien.
Il propose du beau jeu, tout ça. Lens. Et même, il y a de l'envie, tout ça. Franchement, Lens, c'est bon.
Donc, t'es d'accord aussi avec Daniel?
Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que le championnat de la Ligue 1, il évolue. Après, moi, je pense que avec les talents qu'on a en France, la Ligue 1, ça pourrait être un championnat qui s'affronte, voire frotte la première ligue.
Ouais, c'est ça.
Après, je pense qu'il y a plusieurs aspects qui doivent rentrer en jeu pour y arriver.
L'oseille.
Mais je pense que la Ligue 1, ça peut être
un talent.
Le deuxième, voire le troisième meilleur championnat.
Coach, d'accord avec Daniel aussi?
Complètement. Ça arrive.
Et du coup, il n'a plus rien à dire.
Bon, maintenant, j'espère que je ne vais pas griller tout le monde avec les matchs du jeudi soir en Coupe d'Europe. Parce que si en Ligue Europa, on prend on a quoi? On a Monaco, on a Rennes, Nantes. Contre la Juve, qui n'est pas formidable, mais qui ne partira pas favori,
nice,
loin de là.
Conférence.
Non, mais regarde, je te rends un exemple.
Nos équipes engagées,
Je suis comme Roland, je suis pas souvent d'accord avec Daniel, mais là, on est complètement d'accord. Et je rajouterais que si on prend un exemple, justement, de ce qui ne va pas sur le plan fiscal et charge sociale, regarde ce qu'a fait Chelsea depuis trois semaines.
On va en parler tout à l'heure.
Ils ont dépensé des centaines de millions de pounds.
On va jamais voir ça si c'est pas le PSG en Ligue 1.
Le fair play financier, alors qu'ils lisent sur X années, et ça leur permet de contourner justement le fair play financier. Quand je vois simplement que nous en France, on ne peut pas aller au-delà de 4 ans et demi, je crois, sur la signature, ou 5 ans, quand je vois que ces clubs-là qui ont une super puissance financière et qui ont la capacité d'attirer
les meilleurs jeunes talents à travers le monde, et en plus on leur proposait.
Tu veux dire qu'on a d'autant plus de mérite en fait, c'est ce que tu veux dire.
Moi j'ai presque un appel à lancer à notre gouvernement, quoi. Je veux dire, ils sont tellement submergés par les problèmes à l'heure actuelle, mais je me dis, donnez-nous les moyens d'être compétitifs sur la scène européenne. On ne peut pas, on a l'impression qu'on se fait arraquer en permanence. On met des normes sur des normes sur des normes.
C'est ce qui manque.
Donc c'est ça le problème, quoi.
Ah, Fali, tu veux dire un truc?
Non, je disais, c'est ce qui manque, hein, à la Ligue 1 aujourd'hui.
Quoi, tu veux dire?
C'est l'argent.
Bah oui.
Sinon, je pense que ça pourrait être un des meilleurs championnats.
Bon, bah, on est tous d'accord. J'aimerais quand même qu'on parle des entraîneurs, parce qu'on va, on va évoquer la question dans quelques instants. Et finalement, cette situation, est-ce que c'est à cause du renouvellement des entraîneurs et donc d'une nouvelle façon de voir le foot, de nouveaux projets de jeu, tu vois, espèce
de
courant de pensée en fait qui change
ça,
les choses.
Il y a aussi le constat quand pendant 10 ans tu prends des tartes en permanence. Et même quand t'es très bête, au bout de 10 ans de claque, tu commences à réfléchir quand même. Donc qu'il y ait eu une évolution dans la mentalité et des dirigeants et des entraîneurs, bah oui, il fallait bien que ça arrive quand même.
Puis le rachat des clubs aussi, je pense qu'il y a eu un impact aussi sur une nouvelle mentalité, une nouvelle directive, une nouvelle vision.
À tout de suite dans l'After, on continue le débat ici à la prison de la santé.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois. Allez, la dernière demi-heure de l'after, toujours ici dans le grand gymnase de la prison de la santé, avec Daniel Riolo, avec Emmanuel Petit, avec Coach Courbis, avec Ibrahim et Afali qui sont avec nous, détenus ici à la santé. Vous jouez au foot, les gars?
Ouais, on joue au foot.
Ouais, hein. Bien sûr, on joue même en club carrément.
Bon,
je joue au foot à la CBB, je ne sais pas si vous connaissez.
La CBB, bien sûr.
Ouais, en 15DH, en 17 nationaux.
Ah bah ça va, bon niveau.
Je joue avec Marcus Thuram carrément.
Moi je suis
ouais.
Défenseur, il joue.
T'es défenseur.
Non, je suis un 10, moi, je suis un milieu offensif.
Ah ouais.
Et toi, t'es...
Ouais.
Moi je suis ailier, à gauche ou à droite.
Mais en fait, il n'y a que des attaquants ici. Non. Ok.
Ils aiment marquer des buts. T'as prévu de reprendre le foot une fois que tu sortiras? C'est un truc qui...
Reprendre le foot...
Non.
Moi, ouais, j'y pense, hein. J'y pense. Ouais. Honnêtement,
plus en déjà, loisir,
avant
moi.
Avant d'être incarcéré, déjà, je m'entraînais pour faire une reprise dans un club en national.
Ah, t'as joué à un bon niveau,
à ce niveau-là.
Ouais. Et parce que je m'entraînais avec une équipe de national, mais j'avais pas réussi à poursuivre avec eux.
Mm-hmm.
Et après, je me suis fait incarcérer et je m'entraîne de mon côté.
Ah, donc t'as joué un bon niveau de footballeur, quoi.
Ouais, quand même.
En toute modestie.
Ouais, du bon niveau.
Bon, alors revenons à notre débat là. Je disais avant la pub, là, est-ce que tu vois toi un changement d'état d'esprit chez les coachs? On parlait de style tout à l'heure.
Oui, on voit dans l'approche. Maintenant, on joue pas pour défendre, on joue pour attaquer, pour gagner les matchs. Alors, l'apport des techniciens est une chose, mais je disais aussi que le fait que beaucoup de clubs ont changé aussi demain, et puis il y a peut-être une nouvelle stratégie, une nouvelle vision. Je pense aussi qu'à un moment donné, on peut pas continuellement espérer la faute de l'adversaire sur un coup de pied arrêté ou sur une contre-attaque. Il faut aussi oser. Il y a plein d'équipes aussi qui donnent le ton. Moi je parle de décennies à chaque fois, parce qu'il y a toujours des équipes qui donnent le ton. Avant, tout le monde voulait jouer contre le Barça. Maintenant, on essaye de jouer un football total. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que ça me correspondait quand j'étais joueur. Le football attentiste où on attend, on est le catenaccio à l'italienne, tout ça, c'est ennuyeux, et ça ennuie les entraîneurs, ça ennuie les joueurs, ça ennuie les spectateurs. Donc tout ça mis bout à bout, j'espère qu'il y aura une confirmation sur les deux ou trois prochaines années, mais ça ne peut venir aussi que par une aide aussi, c'est ce que j'en parlais, de l'État. On ne demande pas une aide de l'État sur le plan financier, mais en termes de normes, permettre aux clubs français de pouvoir...
La fiscalité, par exemple.
Pas seulement la fiscalité, on parlait sur la durée des contrats. Bon. Je veux dire, on pénalise, en plus, en sachant que la plupart du temps, les meilleurs jeunes joueurs des centres de formation sont tout de suite trustés par des grandes cylindrées, notamment anglaises.
Mais Manu, les clubs français sont très contents de vendre leurs joueurs.
Ça équilibre les comptes.
C'est ce qui fait que leur économie fonctionne.
Mais tout est lié, Daniel.
Tu ne peux pas demander, tu vas pas demander à un gouvernement de baisser les impôts pour le foot, alors que les Français de la vie
non, je parlais pas des impôts, non seulement sur le
oui,
sur
ou
le
de, sur... Ou de nouvelles règles fiscales, mais
non, mais même sur la durée des contrats, sur les normes.
Mais c'est pas à eux de faire ça, c'est au niveau européen que ça doit être fait, c'est à l'UEFA de régler ce genre de choses là. Il y avait un truc qui s'appelait le fair play financier qui a complètement volé en éclats depuis.
C'est un leurre, le fair play financier.
Ça a fonctionné même mal, mais à un moment, en tout cas, c'était une idée qui était intéressante. Aujourd'hui, le problème c'est pas ça. Le problème c'est que t'as un championnat qui monopolise tout, parce que c'est un championnat
qui est riche, parce que c'est un championnat où tu as des droits télé qui sont astronomiques.
Justement, le fait d'améliorer le jeu, que ça soit plus attractif, ça va permettre également au prochain appel d'offres.
Probablement que, effectivement, tu as raison, probablement que le diffuseur seront peut-être amenés à vouloir mettre un petit peu plus d'argent. Oui, mais moi, je ne crois pas trop à ça, parce que je pense qu'on a touché...
Mais la tête de gondole qu'est le PSG, justement, en termes d'image. Si ça peut faire venir d'autres anciennes stars du foot européen ou mondial dans le championnat français, ce qui est arrivé ces dernières années aussi.
Oui, mais à un moment, tu peux faire venir des stars. Si les Françaises n'ont pas les sous pour payer les abonnements...
Donc on en revient au problème initial.
Donc ils ne pourront pas payer les abonnements. Et tu ne vas pas demander à un diffuseur de baisser le prix de l'abonnement alors qu'il a mis 800, 900 millions sur la table. Donc il sera obligé de mettre un certain prix pour son abonnement. Si les gens ne peuvent pas payer, et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de problèmes à venir probablement en Italie et en Espagne, parce que les gens ne peuvent plus payer ces abonnements-là, parce que les abonnements sont tous trop chers. Je pense qu'on est au bout d'un modèle. Et au bout de ce modèle-là, qui résiste? Uniquement les Anglais. Parce que eux, ils ont des droits télé qui sont colossaux. Les gens, visiblement, réussissent encore à s'abonner.
Quand je vois la vente à l'étranger, quand je vois comparativement à la France.
Exactement. On a beaucoup trop de retard
ça
sur ça.
Revenons sur la Ligue 1, les gars.
Moi, je pense que ça passera par autre chose.
J'ai des chiffres sur l'Angleterre, on va en parler tout à l'heure.
Alors, donne les chiffres et je te donnerai.
Non, tout à l'heure, c'est prévu, c'est prévu tout à l'heure. Pour l'instant, on va finir sur la Ligue 1. Roland, tu sens aussi un changement de façon de fonctionner dans la nouvelle génération de coachs?
Oui, complètement. Maintenant, je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, ou alors ça serait pas sérieux de ma part. Il y a quand même une énorme différence quand tu entraînes certains clubs par rapport à d'autres.
Tu veux dire que oui, les styles et compagnie, ils sont pas dans les gros clubs. C'est ça que tu veux dire. Le Brise, oui, dont
mais,
on parle beaucoup.
Mais je pense par contre que ça enlève pas leurs compétences et la possibilité que prochainement, en faisant les classes, sans manquer de respect pour le stade de Reims, mais avant de signer à Lyon, à Marseille ou au Paris Saint-Germain, passer par Reims, par Lorient, je dirais pourquoi pas, c'est même indispensable.
C'est vrai que le renouvellement, on voit qu'il se fait par en dessous, en fait. C'est ça qui est assez étonnant.
C'est-à-dire, le renouvellement, il se fait par en dessous. À la tête du PSG, tu as un entraîneur français, ce qui est en soi rare.
On peut dire qu'on est déçu. Donc,
tu as un entraîneur français qui faisait partie ces dernières années des entraîneurs qui avaient la cote à la mode, qui lui-même avait entrepris une profonde réflexion sur ce qu'il avait envie de voir sur le terrain entre le Galtier des débuts, qui était plutôt peu attractif et plutôt avec des équipes assez chiantes, notamment à Saint-Etienne, où personne sortait, où des contre-attaques à trois mecs, pas plus. Lui-même avait s'était fait une révolution interne et ce qu'il a proposé par la suite était très intéressant. Le problème, il est arrivé au PSG, comme les joueurs à qui tu coupes les pieds, lui il a congelé le cerveau parce qu'il peut plus rien faire et il arrive pas à gérer, à proposer un jeu dans cette équipe. Mais c'est pas, j'ai pas envie de taper sur Galtier parce que Pochettino c'était la même chose.
Tourelle
au début son cerveau il était frais, mais rapidement ils l'ont mis au congélo lui aussi. Mais au début il était frais et tous ils sont comme ça. Emery pareil, il est arrivé plein d'idées et puis hop ils lui ont enlevé le cerveau, ils l'ont mis au congélo lui aussi. Ils deviennent tous comme ça. Et je pense que ça va au-delà de ce qui est de l'entraîneur.
Tiens, test
pour ce club là en tout cas.
Ibrahim Afali, votre coach préféré, vous c'est qui?
Ah, moi c'est Galtier.
Guardiola moi.
Et c'est pourquoi Galtier?
Galtier parce que déjà ce qu'il a fait à Lille, c'était trop déjà.
Et à Lille, mais au PSG, il n'y arrive pas.
Voilà,
comme
au
les
PSG, il n'y arrive pas, mais je pense pas que c'est à cause de lui au PSG. Bah,
c'est ce que je viens de dire.
Parce que c'est juste parce que les joueurs, en fait, sont trop à l'aise. Ils sont trop dans une sphère, je sais pas, ils sont trop en mode superstar.
Exactement. Il
faut les faire redescendre, en fait.
Mais Galtier, il pourrait.
Ouais, Galtier,
il pourrait pas. Les autres n'ont pas réussi. Pourquoi il pourrait lui?
Bah, pourquoi pas?
Moi, je pense que Galtier, c'est pas un coach qui peut gérer une équipe comme le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Avec les têtes d'affiche qu'il y a. Faut se dire la vérité, on veut représenter des entraîneurs français en Ligue 1, etc. Mais Galtier, faut le dire, il peut pas tenir.
Mais moi, je maintiens qu'il y en a pas un au monde qui peut y arriver.
Guardiola,
c'est simple.
Au bout d'un moment, il peut.
Ah, c'est ce qui fait Guardiola s'il arrive. C'est ce qui fait Guardiola s'il arrive. Tu vois les trois devant, il casse tout.
Il te les met sur le banc, mais
non, il
met pas
sur le banc.
Il met pas sur le banc.
Parce qu'il dit, je veux pas ces trois-là. Il dit, je veux pas jouer avec ces trois-là. C'est tout ce qu'il dit.
Mais c'est le seul qui
construit l'équipe autrement. Il fait l'équipe autrement.
Exactement. Mais c'est ce qui manque aujourd'hui au PSG. Parce que ça fait des années que.
Parce qu'il préfère jouer avec des vedettes pour vendre les maillots plutôt qu'avoir une équipe de foot avec des joueurs qui peuvent jouer ensemble.
C'est ça.
C'est ça le vrai problème.
Zidane, non?
C'est un problème.
Mais Zidane, il n'y arriverait pas non plus. Il ferait pas jouer les trois ensemble, Zidane. Il ferait pas jouer.
Zidane, c'est pas un entraîneur qui a le côté poigne de Guardiola. Ouais,
voilà, faut une poigne, c'est ça, faut une poigne.
Il a réussi à gérer Cristiano en disant tu vas jouer moins, je vais t'expliquer. Alors c'est pas en mode poigne, mais
ouais,
c'est.
Mais je pense que c'est pas le même contexte que le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a Mbappé, Neymar, Messi, c'est des égos. Je pense que c'est en pas fait, n'importe quel coach qui peut réussir à gérer ça aujourd'hui.
Je crois qu'il a raison, il faut un Guardiola pour remettre les points sur les i, je pense.
Autre chose aussi, dans le débat, on parlait des entraîneurs, justement, des jeunes entraîneurs qui ont été numéro 2 et qui sont passés numéro 1.
C'est la tendance du moment.
Il y a aussi, je disais qu'il y a une différence. Il y a une différence quand, par exemple, je ne veux pas toujours citer les trois mêmes clubs, il y a une différence d'entraîner Lorient, Reims, plutôt que Paris Saint-Germain, Marseille et Lyon. Mais il y a aussi une différence quand tu prends l'équipe à l'intersaison ou que tu prends l'équipe en cours de saison. Donc aujourd'hui, nous avons des présidents, il faut se mettre à leur place, qui sont en train de réfléchir sur le plan financier. On va virer un entraîneur, ça va coûter un chèque, et on va récupérer un autre entraîneur venu d'ailleurs qui va falloir lui expliquer pendant plusieurs semaines les qualités, les défauts de tel ou tel joueur, et je trouve que c'est beaucoup plus...
Donc tu veux dire, l'adjoint, ça t'économise un salaire, et en plus le mec est déjà là, c'est ce que tu veux dire.
Et puis il connaît les joueurs mieux que celui qui va arriver. Donc après, ce qu'il faudra voir, c'est ce que fera cet entraîneur la saison d'après. Ouais. Du côté de Nice, du côté de Lorient, du côté de Reims, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Mais prendre l'équipe en cours de saison et la prendre à l'intersaison, c'est pas tout à fait pareil.
Et surtout,
c'est
construire l'effectif, être dans le recrutement,
absolument,
à subir la vente des joueurs. Par exemple, Reims, c'est très bien, mais quand il va falloir qu'ils refilent leur attaquant parce qu'il n'est pas à eux,
absolument,
ce ne sera pas la même chose. Il y a tout ça à gérer. C'est aussi le travail d'un entraîneur.
Vous parliez tous les deux, Fally et Ibrahim, d'autorité. Il y en a un qui a fait preuve d'autorité en début de saison. Il s'est même fait huer par le public quand il a sorti Payet, qu'il l'a mis sur le banc, c'est Tudor. Et aujourd'hui, ça fonctionne.
Il a même ramé à contre-courant quand il est arrivé.
Mais là tu cites l'exemple.
Je ne sais pas que Tudor serait parfait pour le PSG, mais enfin bon, il a fait
des années. Gilbert, tu cites l'exemple là d'un endroit particulier qui fait partie des trois endroits difficiles.
Là, Manu, t'es pas souvent dans l'after avec nous, donc je profite de ta présence. T'étais bluffé, toi, par le boulot de Tudor?
Oui, parce qu'il est arrivé avec une image un peu cassante, comment il s'exprimait aussi dans sa communication avec les joueurs, ça a froissé l'ego de pas mal de gars qui étaient un petit peu dans le confort, et en plus on sortait de l'ère Sampaoli qui était très apprécié, et c'est vrai que quand t'arrives dans un climat de défiance, notamment avec les supporters, je me rappelle des banderoles et tout, quand, en plus dans le contexte marseillais où tu sais que le Mistral est jamais très loin, tu peux t'imaginer que c'est très compliqué pour inverser la tendance, et il l'a fait brillamment, voilà.
Ah mais il a été solide, Tudor aussi, il faut le dire.
Ah oui,
parce qu'il se fait critiquer dès le début, dès qu'il ne veut pas être sur le banc.
Un peu à l'image d'Arteta, tu alors
non, mais vous oubliez quelque chose, il n'a pas été que solide. Il a été soutenu par son président.
Exactement.
Et son président a fait en sorte qu'il ait les joueurs pour son système.
Mais c'est ça le problème.
Et finalement, sortir Payet, ça a été, on va dire, facile, parce que son président le soutenait et que le groupe était OK.
Ouais, mais le président est à l'écoute du coach. Ça doit pas faire l'inverse aujourd'hui. Ça doit être le président qui doit être à l'écoute du coach. Parce que c'est le coach qui est au contact des joueurs.
Et il faut un assemblage de joueurs qui fonctionne.
Au PSG, c'est pas ça. Au PSG, c'est au-dessus que ça décide. Et c'est pour ça que ça marche pas. Parce qu'on change d'entraîneur, ça fait des années et on voit que ça marche pas.
Et c'est normal. Au PSG, celui qui fait le mercato, il est pas content du mercato. Excellent, il en refait un deuxième, il est toujours pas content. Et ils veulent assembler des pièces du puzzle, mais c'est pas les bons puzzles. C'est comme t'as le puzzle Mickey, il faut que tu montes le puzzle Donald. Les pièces, elles vont pas ensemble. Donc ça peut pas coller.
Une équipe, ça se complète en fait.
Oui, bah là, ça se complète pas au PSG.
Non, là, c'est mort là.
On verra tout à l'heure si vous avez une équipe complète.
Coach, dis-moi, toi qui es plus sur les bancs là depuis quelques temps là, tu te dis aujourd'hui, je pourrais encore, quand tu vois la nouvelle génération qui arrive et tout, tu te dis c'est fini?
Non, j'ai plus la patience du tout. La passion, je l'aurai toujours jusqu'au mon dernier jour, mais. La patience, je l'ai plus. Je suis sûr que je...
Quand tu vois le mode de management aujourd'hui, comment il faut traiter les joueurs, un peu les cajoler, tout ça, c'est ça qui te...
Oui, mais bon, après, j'aurais aimé, par contre, être dans l'époque des 5 changements. Ça m'aurait plu, parce que quand je vois certains joueurs qui sortent en faisant la gueule, ben, je trouve ça d'un certain côté logique, si c'est quand même limité un petit peu. Il y a sortir... T'es pas content, mais t'es pas seulement content de sortir, t'es peut-être pas content de ton match au TI, ça va. Je ferme les yeux, je fais comme si je t'avais pas vu. Par contre, il y aurait au moins 3 changements sur 5, je dis bien sur 5, après les 2 autres, j'aurais attendu de voir un petit peu ce qui se passe, où c'est que nous en sommes, si on est en train de mener, si on est en train d'être en difficulté et tout, mais j'aurais géré la chose avec trois joueurs qui sont déjà au courant que leur match à eux, c'est 60 minutes. Et que quel que
soit. Sur les cinq changements, ça aurait changé ta façon complète d'analyser les matchs et de gérer ton équipe.
Complète. Quand, par exemple, je vois aujourd'hui que dans des clubs.
Et tu aurais utilisé les cinq, parce que certains n'utilisent pas les cinq, hein. T'as remarqué.
J'aurais utilisé les cinq, mais pas à la 88e minute non plus, bien avant. Trois. J'appelle ça se partager le boulot, ce que j'appelais à l'époque déjà le 60-30, mais j'avais que droit à trois changements. Aujourd'hui, donc, ces trois changements, il y aurait 60-30 dans des postes où tu fais beaucoup plus de kilomètres que d'autres, les pistons, les milieux et tout, alors que les arrières centraux, c'est quand même assez tranquille et assez pépère. Et là, ben, cette époque-là, j'aurais aimé la connaître, mais par contre, aujourd'hui, reprendre les choses en main avec les matchs tous les trois jours, non, ça, c'est sincèrement, je me serais disputé bêtement et donc je suis sûr que j'aurais échoué.
Dans un instant, on va finir notre dernier quart d'heure d'after en parlant d'Angleterre. On a la chance d'avoir Manu avec nous. Il faut que je vous donne des chiffres sur Chelsea et les comparaisons d'investissement au mercato d'hiver entre l'Angleterre et les autres. Vous allez voir que
490 millions, c'est ça.
C'est assez dingue. Ah bah, donc t'es fort, toi. Attends, je regarde ça. Non, c'est plus que ça.
Pas loin du milliard.
Ah, c'est
milliard.
Chelsea, je crois.
Ouais. Pour ça, c'est juste Chelsea.
Le global, t'es pas loin du milliard.
Exactement. On fait le point dans quelques instants. Vous allez voir que la France est pas si mal classée finalement dans les investissements là. On se marque à tout l'hiver. Allez, à tout de suite dans la foule.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Les 10 dernières minutes de l'after ici à la prison de la santé. On est là avec coach Courbis, avec Daniel Riolo, avec Manu Petit, avec Ibrahim et Afali qui sont également avec nous depuis tout à l'heure, qu'on voit passionnés de foot. Merci d'être avec nous, les gars. Manu.
Oui.
Je te donne des chiffres.
Ouais.
En Angleterre, on est, comme l'a dit Daniel juste avant la pub, quasi au milliard d'euros de dépenses pendant le mercato d'hiver.
Pas surpris.
Voilà, quasi au milliard. Mais alors étonnamment, vous savez quel est le deuxième championnat qui a le plus dépensé ?
Tu vas me dire la France sûrement, non ?
C'est la France. C'est assez étonnant, bon, on n'était pas habitué.
Les Espagnols, ils n'ont plus tellement d'argent à dépenser, les Italiens non plus.
Voilà, après, le rapport, il est dingue.
Les Allemands n'ont pas pour habitude de dépenser beaucoup d'argent non plus. Donc.
Le rapport, il est dingue parce que l'Angleterre, c'est quasi un milliard, la France, c'est 127 millions. Donc, tu vois,
par contre, ça serait bien de faire le classement dans le sens opposé. Qui a gagné le plus d'argent ?
Ah, alors celui-là.
C'est pas les Portugais ?
Non, la balance. Les balances entre vente et achat.
Ouais.
Les Français étaient positifs sur
les Français sont positifs.
Non, mais ceux qui vendent le mieux, c'est les Portugais.
L'Espagne, par exemple, Real et Barça, zéro achat de joueurs pendant le mercato d'hiver.
Le Barça a dû vendre les bijoux de famille pour espérer justement.
Et celui qui a le moins dépensé, c'est l'Italie, de tous les grands championnats.
Situation économique très problématique en Italie et également en Espagne, je le redis. Et ça va conduire ces pays-là à vouloir une grosse réforme du football européen et à ne pas accepter la réforme 2024 de Seferin avec sa Ligue des Champions suisse. Parce que d'ailleurs, c'est pas dit du tout qu'ils trouvent les diffuseurs qui donnent l'argent qu'ils espèrent.
Tu penses pas que la Super League va revenir sur le plateau encore?
Elle va revenir, mais c'est pour moi la seule issue, le seul salut pour championnat de France, Angleterre, Italie, et l'Allemagne va pas tarder à être convaincue.
On va faire
parce que les écarts qu'il y a entre l'Angleterre et les autres fait que de toute façon, le moindre joueur que tu auras, les Anglais vont te le pomper, ils vont se faire des effectifs, parce qu'en plus, si tu avais l'Europe qui disait vous limitez à 20 joueurs, vous limitez à tant de contrats, mais le problème c'est qu'il n'y a aucune limite. En France, El Ralaifi, ça lui va bien parce qu'il est président de l'ECA et lui, il veut aucune limite non plus. Ça lui permet de gonfler sa masse salariale de fou pour des résultats qui sont franchement médiocres par rapport à ce qui est dépensé. À un moment, le seul salut pour des clubs en France comme Marseille, Lyon, même un club comme Lens qui a envie de se développer, le Real, le Barça, tu dis toi-même, bientôt ils pourront plus rivaliser sur le marché avec les clubs anglais. Ouais. Ils vont en avoir marre au bout d'un moment. Les clubs italiens, Inter, Milan, Juve, en plus avec les difficultés économiques à la Juve, ils vont se dire, ok les gars, faut qu'on fasse quelque chose. Donc on va se rassembler et on va créer une nouvelle compétition.
Je rappelle que l'économiste Manu Petit est avec nous, hein, donc pour les analyses d'économie.
Mais il aime bien ces questions-là, il a bien raison, parce que c'est l'explication.
Je ne dis pas que d'économie, c'est Gilles Mérin.
C'est vrai.
Et n'oublie pas que moi je suis comptable, tu l'as vu.
Ah oui, c'est vrai. Super League.
En fait.
Quand vous entendez Super League, Afali Ibrahim, vous qui suivez le foot, ça vous excite ça ou vous dites que c'est la mort du foot?
Non, c'est la mort du foot.
Moi, pour tout vous dire, là, quand ça s'est sorti l'année dernière, je crois.
Oui,
le projet là. Moi, quand j'ai entendu le projet, déjà, j'étais pas trop pour. Mais au vu des comment ça avance avec l'écart financier que vous disiez, je pense que c'est la seule solution pour que il y a une certaine compétitivité qui soit gardée, quoi.
Bah surtout que la façon dont c'est sorti la première formule, elle est morte à enterrer.
Il s'agit plus de ça.
Là, on est sur toute autre chose. C'est vraiment une refonte des championnats avec, je sais pas, 20, 30, 40 clubs, une, deux divisions et des alliances entre les clubs pour créer quelque chose et revendre du foot. Parce que là, il y a des pays qui pourront plus s'en sortir.
On va parler bientôt dans l'after avec un dossier spécial.
Il va falloir comprendre. Mais la France, au prochain appel d'offres, elle espérait avoir 800-900 millions, mais ils les auront jamais. Et s'ils les ont pas, sachant qu'ils ont vendu une partie de leurs droits déjà à CVC, mais on va s'appauvrir au lieu de s'enrichir. Donc il va falloir trouver quelque chose.
Manu, jusqu'où vont aller les Anglais, toi qui connais bien le fonctionnement des clubs?
Il n'y a pas de limite, tu le vois encore. Chelsea est le plus représentatif là, sur le dernier marché des transferts, mais il y a d'autres clubs. Regarde, quand tu... Je veux dire, on ne va pas refaire l'histoire parce que tout le monde la connaît. Même le dernier de la Première Ligue a quasiment le même budget du PSG en termes de droits
télévisuels. Un club comme Brighton, ils ont plus de moyens que n'importe quel club en Ligue 1.
Les joueurs ne sont pas stupides.
Qu'est-ce que tu veux faire d'autre?
Je ne veux pas dire qu'ils vont tout le temps vers le plus offrant, mais majoritairement, c'est ce que.
Regarde, je te donne un exemple. Badiachil, qui est donc assigné à Chelsea.
Oui.
Et bien là, il pourrait se retrouver en dehors de la liste des joueurs de la Ligue des Champions.
Parce qu'il n'y a pas.
Parce qu'ils ont tellement recruté.
Ils parlent de 4 joueurs.
Concrètement, ils peuvent avoir ajouté 3 nouveaux. Ouais. Donc ils vont mettre Mudryk.
C'est pour ça que Jorginho est parti.
Félix, Joao Félix et Enzo Fernandez. Donc Badiachil, le pauvre, qui est quand même parti pour une grosse somme, il peut se retrouver finalement.
Mais lui, il n'en a rien à cirer. Il a un salaire astronomique et tous les agents qui sont autour croquent. Lui, il s'en fout.
Il se consolera avec sa feuille de paie.
Mais voilà, exactement. Tu pourras le retenir que si tu crées une nouvelle compétition ou quand tu le garderas, tu pourras lui dire, nous, le salaire, on va pouvoir te donner quelque chose de conséquent. Mais là, les écarts, ils sont tellement énormes. Il y va. Ah merde, je peux pas jouer à la Ligue des Champions. C'est pas grave, je jouerai le championnat.
C'est marrant parce que j'entends pas l'UEFA.
Et l'UEFA dit rien, absolument. L'UEFA ne dit rien.
Pourquoi l'UEFA dit rien?
Parce que l'UEFA, déjà, ils sont en guerre et ils flippent à mort. Il y a une décision de justice défavorable pour eux.
Ils ont peur d'être déboulonnés de leur Ligue des Champions.
Exactement. Ils ont peur de perdre les joueurs avec la Super League.
Limiter le nombre de joueurs, ça pourrait être très simple.
Ils vont rien limiter du tout. Les Anglais, ils l'ont créé.
Mets-toi à la place.
Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est rehausser le niveau des autres championnats, je pense. Parce que c'est pas d'essayer de restreindre les capacités de la Première Ligue. Je pense qu'il faut essayer d'amener dans les autres championnats une compétitivité qui
absolument
soit...
En plus tu vas pas leur interdire quoi égal. Que ce soit les Anglais tu leur interdiras rien, de toute façon mort. Eux ils ont créé leur Super Ligue de leur côté, ils l'ont leur Super Ligue à eux les Anglais ils sont pas intéressés à venir là maintenant jouer, eux ils sont contents entre eux maintenant.
En plus avec le Brexit ça n'a fait qu'empirer.
Exactement.
Les gars, on arrive au bout de notre after. Je voulais remercier tout le monde ici à la prison de la santé. Remercier le directeur.
Merci à vous, les gars.
Merci pour l'accueil.
Le ministère de la Justice.
C'est à vous.
Merci à vous qui êtes venus nous voir.
Merci à tous.
Afali, Ibrahim, merci.
Merci à vous.
Vous avez été bon comme Abdoulaye tout à l'heure. Il était un peu en stress, Abdoulaye, non?
Abdoulaye était un peu en stress, mais bon.
À mon avis, sur un terrain, il prend la pression vite.
Ouais, c'est ça, c'est ça le problème. Même sur un terrain, il prend la pression vite. C'est pour ça que je suis venu prendre sa place sur la chaise. Parce que.
C'est pas du stress, c'était pas les mêmes sujets, c'est tout.
Ah, d'accord, c'est une question de
sujet. C'est normal, et toi, ton sujet, c'était Lyon. Sur Lyon, il n'y a rien à dire. T'as mal joué, il n'y a rien à dire.
Roland, merci d'être venu. Roland, excuse-nous de t'avoir ramené en prison, mais
je m'évade facilement.
Merci, coach, d'être venu. Merci, Manu, également, merci, d'avoir joué le jeu avec nous.
Ciao, tout le monde.
Et évidemment, vous pourrez réécouter l'intégralité de cette émission en podcast qui sera disponible d'ici quelques secondes. Voilà pour cette belle semaine d'after qui se termine avant la semaine prochaine. De nouveaux beaux after avec notamment le PSG. OM PSG de mercredi prochain. Voilà, on se retrouve demain soir 20h dans l'after avec le retour de la Ligue 1. Bye bye, bonne soirée à tous. Merci Daniel.
RMC, l'after foot.